Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 pour un nouvel opus de La Gueule Ouverte, une émission d'Attaque Marseille. Au menu de ce dernier opus de l'année, la bande de jeunes lurons d'Attaque Campus vous propose de les suivre dans leur découverte et l'analyse de l'actualité qui les entoure. La campagne est officiellement lancée pour les principaux acteurs de l'échiquier politique. À quelques 135 jours du scrutin présidentiel, nous proposerons un petit voyage dans l'actualité chaude de cette période qui s'annonce pleine de rebondissements. International ensuite, avec Perrine, notre correspondante en Allemagne, qui traitera également de l'actualité politique de ce pays en proie au changement profond. Si le changement est pour l'heure politique, celui-ci pourrait-il avoir une réaction concrète sur un autre type de changement ? L'Allemagne et les politiques climatiques en détail dans la deuxième partie de notre émission. Enfin, le voyage se terminera au pays de l'intime et de l'émotion. Margot et Ambre vous proposeront de réfléchir et de questionner les questions des relations amoureuses et pas que. Parce qu'on est bien loin du schéma « un papa, une maman, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » et que c'est bien mieux comme ça. Un peu d'amour pour terminer l'année, on en a bien besoin.
J'ai fait des erreurs et j'en referai. J'espère que ce sera pas les mêmes. À quoi ça sert d'écrire des textes si je sais pas dire aux gens que je les aime? Combien d'autres raisons funèbres avant de le dire avant? Bataille perdue d'avance, des guerres dont personne sort gagnant. À la base c'était juste un passe-temps. Mes temps est passé, je faisais juste ça pour les faire marrer. C'était qu'en soirée, c'était des impros bien préparés. Mais quand elles buzzent, les merdes appliquent. Les yens, les fils de polémistes. J'insiste de sortir mon premier disque, fais de la politique, j'suis seul et...
Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République.
On en est donc là. Éric Zemmour est dans toutes les discussions. Celui qui a déclaré que les employeurs avaient le droit de refuser des personnes arabes ou des personnes noires, sur ce simple critère. Celui qui passe la majorité de son temps à amalgamer musulmans et djihadistes est dans toutes les têtes françaises. Et des frasques comme ceci, vous le savez, il y en a des centaines, et on va vous épargner ça. Condamné deux fois pour provocation à la discrimination raciale, reconnu coupable de provocation à la haine religieuse, et est encore aujourd'hui poursuivi par plusieurs personnes pour des propos relativement similaires. Bon, il cartonne quand même. Et on en est donc là. Zemmour annoncé avec 14% d'intention de vote au premier tour, à 5 mois des élections présidentielles, coude à coude avec Marine Le Pen, et bien devant Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou encore Yannick Jadot, des personnalités politiques annoncées, et ça depuis plus longtemps que Zemmour. Mais celui que l'on n'ose plus nommer à la manière d'un grand méchant de film hollywoodien, il est bien présent. Et en plus d'occuper nos émissions de radio, il s'est bien installé dans le confortable canapé de la surmédiatisation. Pas encore candidat, Éric Zemmour a monopolisé les sujets des journaux d'info. Il a fait exploser les chiffres d'audience des émissions de sa chaîne de cœur, CNews, et il profite d'un temps d'exposition très important. Bon, en fait, c'est le nouveau Covid, ce mec.
Et force est de constater que la machine s'est emballée, nous ne pouvons pas le nier. L'impétueuse machine a créé de la tension et de la polémique, cette inarrêtable machine à fric qui carbure à l'ignominie et à la pourriture. La machine à manipulation, pire, la machine à faire du fric par la manipulation. Mais si seulement on en était resté là. Maintenant, ce n'est plus uniquement le fric qui compte. Le commercial laisse sa place au gouvernail. L'avidité gagne du terrain face à la solidarité. Bref, la polémique balaye la vraie politique.
Le bougre, il veut être président. Et remarque, il irait logiquement rejoindre la longue liste des personnalités politiques au gouvernement ayant eu affaire à la justice. Et vous le saviez, vous, aujourd'hui, qu'en France, un casier judiciaire vierge est exigé pour pouvoir exercer 396 métiers. Genre pour être hôte de caisse, taxi, fonctionnaire ou pompière, c'est obligatoire. Mais pour être un élu, un ministre ou un président, ça va. C'est peut-être une condition d'accès à la fonction, qui sait. Genre ça fait plus sérieux sur le CV quoi. Mais sinon, le ministre de la Justice et garde des Sceaux en exercice, Éric Dupond-Moretti, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Ou le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est accusé d'abus de faiblesse, de viol et de harcèlement. Sans parler du cas Hulot que l'on va voir, et son gouvernement qui l'a bien soutenu et protégé, ou encore notre actuel ministre des petites et moyennes entreprises, jugé il y a 2 mois, pour de fausses déclarations sur sa situation patrimoniale, et d'ailleurs, il a pris 1 an avec sursis, et il est censé avoir pris 3 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique. En fait, la honte, c'est que des gens trouvent les arguments pour protéger ces personnes qui nous méprisent. C'est aussi grâce à cette méthode du « plus c'est gros, plus ça passe » qu'un fasciste condamné plusieurs fois pour racisme comme Zemmour peut se présenter à l'élection présidentielle en France et être crédible. Et ça, tout en ayant droit à son JT de 20h sur TF1 et en monopolisant l'attention des médias de droite et d'extrême droite. Tout ça, c'est aussi grâce à l'utilisation de biais cognitifs, comme l'effet de simple exposition, c'est-à-dire une plus forte probabilité d'avoir un sentiment sympathique à l'égard de quelqu'un en étant régulièrement exposé à cette personne, ou encore grâce au concept de la fenêtre d'Overton, dans laquelle on s'imagine une gamme de personnes qu'on considère acceptables politiquement au regard de l'opinion publique, donc qui peut être proposée sans paraître trop extrême, et qui peut volontairement tenir des propos situés légèrement en dehors de cette fenêtre avec l'intention de rendre normal des idées considérées jusqu'ici comme marginales.
Mais comment ça se fait? Y a pas des institutions qui sont censées gérer ces dérives trop extrêmes à la télé et qui condamnent ce qui est condamnable?
Bah ouais, c'est le rôle du CSA. Le sacro-saint CSA. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'autorité qui est censée gérer et garantir la communication audiovisuelle en France. En gros, c'est eux qui délivrent les autorisations d'émettre aux radios, aux chaînes de télé privées, mais le CSA, il peut aussi sanctionner financièrement, voire suspendre, réduire, ou carrément retirer l'autorisation d'émettre à ses distributeurs. En fait, ils sont supposés assurer le respect d'une offre politique pluraliste de la part des éditeurs, tout en surveillant quand même si ça part pas trop loin des fois, quoi.
Et qui c'est qui est censé gérer cette IGPN des médias?
Alors c'est géré par Roch-Olivier Maistre depuis 2019. Il a été proposé directement par Macron pour occuper cette fonction. Il a ainsi participé à l'élaboration de la loi qui régit le CSA dans les années 80. En 2019, tout change pour le CSA lors de sa fusion avec Adopi. Au moment de nos recherches, plusieurs faits nous ont semblé importants d'être relevés. Déjà, comme en 2017, cette année il convient de ne pas parler que du temps de parole, mais également du temps d'exposition.
Les éditoriaux et les commentaires politiques, les revues de presse, les débats réunissant des journalistes, des experts et d'autres personnes, les analyses et les présentations de sondages d'opinion sont pris en compte dans le temps d'antenne, lorsque, pour l'essentiel de leur durée, ils concernent un seul candidat et ne lui sont pas explicitement défavorables. En d'autres termes, si un journaliste fait les commentaires d'un sondage d'opinion plutôt favorable à un candidat, sans qu'une opinion défavorable ne soit exprimée à son égard, ce temps doit normalement être décompté du temps d'antenne du candidat en question. Une disposition qui existait déjà en 2017.
Aussi et surtout, on découvre avec stupeur dans le journal Marianne un article dédié au fonctionnement de cette répartition des espaces de communication. Et pour résumer,
afin de s'assurer du respect de ces règles, le CSA demande aux rédactions de comptabiliser en interne le temps de parole et le temps d'antenne. Toutes les données de ce décompte sont ensuite transmises à l'autorité. L'organe de régulation procède ensuite par carottage afin de vérifier si leurs recommandations sont bien appliquées et peut procéder à des sanctions si elle s'aperçoit que ces règles ne sont pas respectées.
Ah, donc c'est les rédactions qui communiquent au CSA les données qui lui permettront de réguler ou non? Ces mêmes rédactions qui sont aux mains d'un très très petit nombre d'acteurs? Vous imaginez que Bolloré a un pouvoir sur les données qui remontent jusqu'au CSA, lui-même dirigé par une personne nommée par Macron?
Tiens, justement, tu savais que le CSA, ça appartenait à Bolloré?
Comment ça?
Bah, littéralement, la famille Bolloré possède le CSA, pour Consumer Science and Analytics, un institut de sondage dont Vincent Bolloré est actionnaire unique depuis 2008, l'institut étant la propriété du groupe Havas, dont la direction est elle-même assurée par Yannick Bolloré, fils de Vincent.
Ouais, mais du coup, rien à voir.
Mais si! Déjà, ça nous ouvre le terrain à un beau jeu de mots. Et puis, t'inquiète, tu vas comprendre. Laisse-moi te résumer comment 2-3 personnes contrôlent le résultat de l'élection présidentielle de la 5e puissance mondiale.
Vincent Bolloré, héritier d'un industriel breton, directeur adjoint chez Rothschild à 23 ans, il investit et développe des compagnies dans divers secteurs d'activité, puis dans la pub et les médias dans les années 2000. Aujourd'hui, il est multimilliardaire et il possède un empire médiatique. Bref, maintenant il pèse dans le milieu. Vincent Bolloré et le groupe Bolloré sont actionnaires majoritaires de Vivendi, société principale actionnaire depuis peu du groupe médiatique de Lagardère.
Le groupe détient 100% de Paris Match,
RFM,
Europe 1,
Virgin Radio
et le Journal du Dimanche.
Une fusion qui lui permettra également d'obtenir la direction d'Hachette Édition, premier éditeur de livres en France.
D'ailleurs, l'économiste et professeur Françoise Benhamou rappelle que la part de marché conjuguée en France d'Hachette Édition et d'Editis, donc de Bolloré, atteint 71% dans le parascolaire, 63% dans le dictionnaire et 54% 5% dans le livre de poche.
Bon, grossièrement, il est aussi dans les affaires de la société de holding Banijé, qui a des actions dans des entreprises de l'audiovisuel ou de la production médiatique, et ce, dans 16 pays en Europe. Mais il est aussi présent en Inde, aux États-Unis ou encore en Russie.
Tiens, tu savais pour l'anecdote ? Cyril Hanouna, proche collaborateur de Bolloré, détient quand même 1,5% du même groupe.
Pour Bolloré, la gargantuesque entreprise d'asservir les médias, tel le mastodonte qu'il est, se déroule comme dans un rêve. Il est pour ainsi dire accompagné du silence collaborateur des pouvoirs publics.
Il a le pouvoir et le contrôle sur les médias et sur qui crée le contenu qu'on va regarder. Il choisit et produit ce qui va passer sur ses chaînes et dans ses journaux, et donc il influence et anime la vie politique d'un pays entier.
Sans exagérer, on rentre du travail et on se met devant la télé. Et si on décide de regarder Canal+,
C8,
CNews,
c'est lui.
Écoutez Europe 1,
RFM ou lire Paris Match, Capital, Femme Actuelle, Géo, Télé Loisirs ou Voici, il est encore derrière, au moins en partie. Mais ça va, on a quand même un petit peu de pluralité et de diversité. Tu vois, LCI, TF1 ou TMC par exemple, ça appartient à d'autres, c'est pas la même ligne éditoriale.
Ouais, ça appartient à monsieur Martin Bouygues, qualifié par la presse de meilleur ennemi de Bolloré. Le même Martin Bouygues qui va d'ailleurs bientôt investir plusieurs centaines de millions d'euros dans une fusion entre le groupe RTL, qui détient
M6, RTL, RTL2, Fun Radio ou encore W9.
Bref, vous l'aurez compris, il y a la concentration d'un pouvoir gigantesque entre les mains d'un minuscule groupe de riches propriétaires. Ce sont les mêmes personnes qui produisent le contenu, qui le proposent à la diffusion et qui programment ce contenu, donc qui choisissent ce qui va être partagé et publié ou non.
Il faut sans doute également rappeler combien le fonctionnement autoritaire et antidémocratique que Bolloré a instauré au sein du groupe profite à l'extrême droite. En octobre 2019, alors que Zemmour est en passe d'être recruté, alors que la décision provoque quelques remous dans la rédaction, la direction coupe court aux éventuelles velléités de révolte des journalistes. En complément, dans un article du Monde dédié à Bolloré, on lira « La seule ligne éditoriale que je respecte, c'est celle du patron, dit Nedjar, que l'on surnomme discrètement le général Tapioca au sein de la rédaction, comme le cruel dictateur de Tintin. »
Mais attention, ce management par la peur ne suffira pas à faire taire toutes les voix discordantes. En témoigne la chaîne CNews, mise en demeure par le CSA pour avoir relégué aux horaires de nuit la parole du gouvernement et de la France insoumise.
Oh, on a une micro-réaction à la hauteur des enjeux du coup.
Bah non, tout le monde s'en fout en fait. Et c'est bien ça le problème. On nous gave d'infos à longueur de journée sur les réseaux sociaux, dans les journaux, sur les plateaux de télé, dans les radios. Et quand on commence à comprendre les rouages du système dans lequel on évolue, on réalise très vite qu'un petit groupe de personnes influentes, et du coup, en fait, ils ont tout intérêt à communiquer sur ce qui fait leur affaire.
Et toutes les pertes de temps sont là par terre, et toutes les mauvaises routes que donne la carte. Infiltré comme Vincent chez Lagardère, je tombe et je me relève comme un Bonaparte. Si ça doit péter, je remets le code, c'est l'heure.
Le problème d'un tel empire de presse, c'est qu'il représente une concentration sans fin des médias. Ces mêmes médias qui pèsent du poids inconsidéré sur le pluralisme politique et médiatique de millions de personnes.
Ah ouais ? À quel point ?
Bah, à lui seul, le groupe Bouygues a fusionné avec le groupe M6, qui enregistre près de 39,6% de part d'audience, soit 17,5 millions de personnes quotidiennement. En cumulé, le groupe Bolloré divertit quant à lui plus de 15 millions de personnes par jour devant leur télé, leur journal ou leur poste de radio. Donc en gros, on résume. On a une poignée d'individus qui gèrent tout ça et qui poussent des candidats à l'aide de leurs emprises sur les médias, à la manière dont nous aurions pu analyser la montée d'un autre candidat surprenant il y a 5 ans. De l'autre côté, on a Macron, dont les liens avec le monde médiatique sont bien connus depuis sa surexposition pour la campagne de 2017, notamment grâce à ses liens explicites avec Patrick Drahi, Bernard Arnault et Xavier Niel. Après la bombe Macron en septembre 2014, l'Express inaugurait sa nouvelle formule en mars 2016 avec le titre « Macron, ce que je veux pour 2017 ». Le même mois, alors que l'intéressé n'avait toujours pas créé son mouvement politique, l'Obs titrait « La fusée Macron, son plan secret pour 2017 ». 5 autres unes devraient ensuite rappeler aux lecteurs l'actualité du candidat d'En Marche. Comme quoi, ça marche la surexposition, non ?
Oui, là on commence à bien le comprendre. Déjà, avec l'utilisation de certains biais cognitifs, comme ceux qu'on a vus avant, et donc par une certaine forme de manipulation des masses. Et ça, certains, ils l'ont déjà bien compris. À la manière d'un cercle vicieux, voire d'une spirale infernale, ce sont ceux qui ont le plus d'emprise sur l'infinie portée que sont les moyens de com de nos jours qui décident. C'est aussi ça l'infobésité d'Internet et de la télé. Il y a tellement de choses scandaleuses qui éclatent au grand jour qu'il faut choisir celle qui est la plus lucrative, et cette baisse de moralité qui a pour but premier de défendre des intérêts bien précis, elle s'applique aux médias, mais aussi aux politiciens. Bon, c'est cool. Avec le mouvement social MeToo, les femmes, elles prennent la parole, les langues se délient, et les monstres tombent. C'est une gigantesque avancée dans l'histoire de la femme, et grâce à ce type de mouvements extrêmement importants, qui prennent des ampleurs énormes, notamment grâce aux réseaux sociaux, on ne peut plus imaginer à l'aube de 2022 que les responsables politiques puissent encore ignorer. Et en espérant que ça passe. Pourtant, encore dans le feu du mouvement social, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, est accusé d'agression sexuelle et de viol par cette femme. Et 4 ans plus tard, dans l'émission de France 2, Envoyé spécial, diffusée fin novembre 2021, et à la manière d'une parodie, devant les caméras et les micros, on apprend que le gouvernement était au courant, et il incite même la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme à défendre, couvrir et développer une mise en scène pour protéger l'image de Hulot. On ne veut absolument pas que ça se sache. Surtout pas quand il s'agit d'hommes puissants, blancs, riches, politiquement engagés, et encore moins quand ils ont accès aux médias. L'agresseur ou le violeur, c'est plus facile quand, dans l'imaginaire collectif, c'est le garçon d'origine étrangère, issu de banlieue, et qui commet ses actes odieux dans la rue. L'image que le président et son gouvernement renvoient est un signal nauséabond, où l'égalité homme-femme, soi-disant grande cause du quinquennat, est bafouée, et ne sert que de support de com'. Aujourd'hui, Schiappa et ses collègues sont toujours là. Et ça, c'est un gros problème. Une façon de dire, dans le fond, pensez ce que vous voulez, nous, on est intouchables. Et le problème, déjà primordial dans la forme, l'est aussi dans le fond. Aujourd'hui, pile 2 semaines après le docu sur Hulot, on est déjà en train d'oublier. On veut déjà passer à l'info d'après. Près de 4 ans d'investigation qui sont d'une importance capitale pour notre société, de laquelle émergent des infos et des documents qui ne peuvent pas laisser la place au doute. Finalement, ces révélations qui auraient dû provoquer un séisme politique, elles auront très peu d'effet. À peine feront-elles autant de bruit que l'ajout du IEL dans l'édition en ligne du Robert. Aujourd'hui, on vit à l'heure du grand internet et de l'info instantanée à tout moment. Il devient capital de revoir la distribution du temps de parole accordé aux personnalités politiques, mais aussi le temps attribué au sujet que l'on traite pour pas tomber dans le piège et ne pas offrir la propagande voulue. Malheureusement, vous l'aurez compris, ce sont des milliards d'euros qui sont en jeu et des intérêts à tout niveau qui nous dépassent tant tout est fait dans le secret et la cachotterie. De manière globale, nous devons être plus vigilants, sans forcément tomber dans le complot pour autant, mais vigilants sur ce que l'on consomme et ce qu'on nous donne. On ne sait pas vraiment où on ira et comment, et le plus important à notre échelle individuelle, quelque part, c'est de se poser les bonnes questions sur la manière dont on absorbe l'info et qui nous la donne et comment.
Alle, hoffentlich es geht euch gut. Comme pour le dernier opus en septembre, c'est depuis l'Allemagne que je vous parle, de Bonn plus précisément, l'ancienne capitale de la RDA, où je suis cette année. Pour cette émission, je me suis dit que ce serait bien de faire un petit point sur le paysage politique allemand, actuellement en pleine recomposition. Après 16 ans de politique conservatrice menée par Angela Merkel, que vous connaissez tous, l'Union chrétienne-démocrate, le CDU, est sortie de l'échiquier politique. C'est un gouvernement changé, avec à sa tête un nouveau chancelier fédéral qui franchit les portes du Bundestag à Berlin, l'équivalent de notre Parlement. Ce renouvellement est le résultat des élections fédérales qui ont eu lieu en septembre dernier. À la suite de celle-ci, le Parti social-démocrate, le SPD, avec à sa tête Olaf Scholz, avait gagné le plus de voix. Mais le système politique est différent en Allemagne de celui de la France, et il a fallu attendre fin novembre pour connaître la composition du nouveau gouvernement. En fait, pour gouverner en Allemagne, il est nécessaire d'avoir la majorité au Bundestag. Et pour ce faire, des partis doivent s'accorder pour former une coalition. Et cette fois, c'est l'Ampel-Coalition qui l'a emportée. Ampel, en allemand, veut dire feu tricolore, et regroupe les partis SPD, l'Alliance 90 Les Verts et le Parti libéral-démocrate, le FDP. Leurs couleurs sont respectivement rouge, vert et jaune. Et à eux trois, ils forment un complet feu tricolore, d'où, vous l'aurez compris, le surnom donné à la coalition. Cette coalition est historique et depuis sa première apparition, en 1990, ne s'était pas reproduite depuis à l'échelle nationale. Y a de quoi être impatient pour la suite. Dès le 15 octobre, les trois représentants des partis, Olaf Scholz, Annalena Baerbock chez les Verts et Christian Lindner chez les Libéraux, étaient fiers d'annoncer que leur parti avait réussi à s'entendre et que les bases pour un nouveau départ étaient posées. Les mots d'Olaf Scholz étaient ceux-ci.
Und insgesamt kann man sehr spüren, hier ist ein Aufbruch.
Dans l'ensemble, on voit qu'un nouveau départ est possible, soutenu par les trois partis ici présents. Pour ma part, je voudrais dire qu'il est remarquable de constater à quel point des positions au départ différentes sont confiantes et constructives. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais derrière ces annonces grandiloquentes et ces promesses d'union, que se cache-t-il ? Fin novembre, le programme de coalition qui annonce les politiques à venir a enfin été rendu officiel. Maintenant, on se pose la question de savoir ce que l'on peut en attendre. Espoir de changement à la hauteur des enjeux climatiques et sociaux, ou poursuite d'une politique néolibérale et du business as usual. Mais pour l'heure, comme partout dans le monde, c'est vers la gestion de la crise sanitaire que le gouvernement doit se tourner en priorité. La situation est alarmante en Allemagne. Les régions du sud de la Saxe et de Thuringe, à l'est du pays, sont les plus touchées. Des sévères restrictions ont été mises en place pour limiter les activités des non-vaccinés. Et l'Allemagne est favorable à une obligation vaccinale, qui pourrait entrer en vigueur en février ou mars. C'est encore en débat, mais ça se profile. Bon, certes, l'épidémie, le corona, les mutations, les variations, c'est important. Ça rythme nos vies, et il est juste impossible d'en faire l'impasse. On en dépend tout autant qu'il agace certains d'entre nous, car d'autres problématiques sont éclipsées dans l'ombre des projecteurs médiatiques tournés vers le virus. Et c'est pour ça qu'on va se tourner vers le programme plus général de la nouvelle coalition, mené donc par Olaf Scholz, qui a été nommé chancelier fédéral d'Allemagne le 8 décembre. Il y aurait de quoi espérer des changements dans le domaine social et économique avec l'entrée au pouvoir du parti de gauche SDP et le parti écolo. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça aurait été bien trop beau qu'à peine arrivé aux manettes, un programme radical allant en faveur d'une justice sociale et climatique soit immédiatement mis en place. Et notamment la nomination de Christian Lindner, chef de file des libéraux, à la tête du ministère des Finances, annonce une poursuite des politiques néolibérales d'austérité. Rien de neuf sous le soleil. Pourtant, le gouvernement affiche des préoccupations qui ont trait à un meilleur équilibre des richesses et à une préservation de notre chère planète. Sur les questions écologiques, des points sont à saluer. Et parmi ceux-ci, l'objectif de la neutralité carbone pour 2045. Et en 2030, l'éolien et le solaire devront représenter 80% de la production d'électricité. Sont aussi visés l'arrêt des centrales à charbon en 2030, au lieu de 2038, et le recours à des centrales à gaz modernes, en attendant que l'approvisionnement en énergie renouvelable ne soit assuré. Dans le domaine social, le salaire minimum est rehaussé et atteindra 12 euros. Concernant les politiques migratoires, il est prévu de légaliser plus de migrants en situation illégale et, afin de faciliter l'accès à la double nationalité, de réformer le code de la nationalité. Mais soyons honnêtes, on est très loin d'une refonte d'un paradigme économique, basé sur des logiques néolibérales. Christian Lindner a été très clair dans ses intentions de défendre la politique budgétaire et la stabilité financière de l'Allemagne et de l'Union européenne. Dans la presse étrangère, les analyses et commentaires abondent à la suite de l'annonce du nouveau plan allemand. Et entre espoir et scepticisme, voire inquiétude, les avis sont partagés. C'est bien la nomination de Lindner comme ministre des Finances qui fait craindre au journal espagnol El Mundo le durcissement d'une politique orthodoxe d'austérité, mauvais présage pour le gouvernement espagnol. Et à l'inverse, Jyllands Posten, quotidien libéral et conservateur danois, salue ce choix. Avec Lindner, plus de transferts vers les pays du Sud et l'Allemagne se rangera du côté des États européens frugaux. Pas de risque de mutualisation des dettes non plus, comme cela avait été le cas après la première crise sanitaire et à laquelle le Danemark s'était opposé. On sent clairement une ligne de démarcation entre pays européens, pour ou contre les politiques d'austérité. Au niveau international et européen, l'Allemagne prévoit de s'engager davantage dans les affaires internationales et de faire du renforcement de l'Europe une de ses priorités. Dans l'UE, cela réjouit certains pays comme la France et en inquiète d'autres comme la Pologne, qui craint que le départ d'Angela Merkel aura pour conséquence une moins grande indulgence à l'égard de la Pologne. Et c'est aussi la nomination d'Annalena Baerbock, donc un membre du Parti des Verts, au ministre des Affaires étrangères, qui, selon le journal russe Izvestija, aura pour risque une aggravation des tensions entre l'Allemagne et la Russie. Les critiques à l'égard de la Russie seront plus nombreuses et plus virulentes, anticipe le journaliste. En somme, tout ça s'annonce assez tendu. Entre volonté d'une politique plus verte et plus sociale et nomination d'un ministre ardent défenseur d'une politique budgétaire rigoureuse, entre volonté d'un renforcement de l'Europe et risque de tensions accrues avec les pays qui ne respecteraient pas ces valeurs européennes démocratiques, tout cela dans un contexte de montée des groupes nationalistes d'extrême droite, et alors que la crise sanitaire perdure et oblige à revoir les priorités presque quotidiennement, le gouvernement, à peine entré en exercice, a du pain sur la planche. Bon, ne nous leurrons pas, c'est pas parce que les conservateurs chrétiens perdent la main sur les institutions et que des investissements conséquents sont prévus dans le domaine social et économique qu'il faut s'attendre à un changement radical. Encore une fois, c'est bien Christian Lindner qui donnera la couleur aux politiques macroéconomiques à venir et qui aura une influence sur les politiques européennes. Avant même que cela ne soit officiel, le 28 octobre, l'économiste américain Joseph Stiglitz et l'historien britannique Adam Tooze avaient publié une tribune dans Die Zeit, quotidien allemand, dans laquelle ils ne voyaient pas d'un bon œil une nomination au ministre des Finances du leader du FDP. Ils écrivaient alors « Le problème n'est pas seulement que la politique économique de Lindner est une accumulation de clichés conservateurs, plus encore, ce sont des clichés d'une époque révolue, celle des années 1990. » Ils partageaient alors clairement leur inquiétude quant à l'avenir de l'Europe. Mais on peut quand même s'attendre à ce que les sociaux-démocrates et les Verts fassent contrepoids en ne perdant pas de vue leur objectif d'investissement respectueux du climat, à ce qu'ils s'opposent à une politique de trop grande austérité, alors même que la mise en œuvre de cette idéologie a montré qu'elle entraînait un accroissement des inégalités et est inefficace pour faire face à la crise écologique. Comme souvent, l'affaire est à suivre de près. Tschüss, bis bald pour un nouvel épisode sur les actus allemandes.
Ich liebe die Träume, die Aufbruchsgeister, die Überallsamen erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen. Nicht die, die die Zukunft auswendig kennen, Begeisterung als Naivität anschauen und dir ihre altbekannten Ängste als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen.
Le mois dernier, le pronom « Yel » a fait son entrée dans le Petit Robert. Et toute une polémique en a suivi. Et on s'est rendu compte que nous n'avions pas encore abordé la question du genre dans cette émission. Une question épineuse dont on entend de plus en plus parler. Mais souvent, on entend parler d'idéologie et jamais des gens qui sont derrière. Pour notre génération, les gens qui se cachent derrière cette soi-disant idéologie, c'est un peu tout le monde, nos amis, voire nous-mêmes. La question de genre devient de moins en moins importante dans nos rapports, mais paraît de plus en plus ancrée dans le débat social. Les polémistes et autres éditorialistes se régalent à construire des a priori sur le genre, et aujourd'hui, on va essayer de les détruire à grands coups de pelle. Et pour ça, on écoutera les témoignages de Jeanne, Samuel et Charlie, des jeunes directement concernés par les luttes LGBTQIA+, et les questions de genre. Mais avant tout, on va faire un petit point vocabulaire. Qu'est-ce que ça signifie LGBTQIA+? Ça représente les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, asexuelles, et le plus permet de n'exclure personne, et ainsi de comprendre les personnes non-binaires ou encore pansexuelles. Le but de cette émission n'est pas de vous assommer de définitions, d'autant plus que ces dernières sont trouvables sur Internet. L'idée aujourd'hui est de vous montrer en quoi le genre est un sujet important, pour notre génération d'abord, mais aussi comment les luttes LGBT et les questions de genre sont des luttes essentielles, notamment pour les luttes anticapitalistes. Pour le côté technique, c'est Ambre qui va s'en charger. Mon objectif aujourd'hui est plutôt de vous faire découvrir les personnes qui sont directement concernées. Ces mêmes personnes que l'on entend beaucoup trop peu. En parlant avec mes parents ou des parents d'amis, je me suis rendu compte que le sujet du genre n'était absolument pas évident pour beaucoup de personnes et qu'il y a un réel gap générationnel. Aujourd'hui, nous allons donc essayer de définir à chaque fois les termes les moins évidents. Mais avant toute chose, on va laisser Jeanne, Charlie et Sam se présenter et nous expliquer comment sont-ils concernés par le genre dans leur vie quotidienne.
Eh ben bonjour, je m'appelle Jeanne et je parle ici parce que pour témoigner en tant que lesbienne, donc en tant que femme attirée par d'autres femmes romantiquement et potentiellement sexuellement, même si bon.
Bonjour, je m'appelle Samuel et je suis ici pour témoigner sur mon expérience en tant que personne transgenre, en tant que garçon transgenre de 17 ans.
Je m'appelle Charlie, mon pronom c'est Yel et les accords c'est féminin-masculin un peu en alternance. Et la non-binarité c'est d'être... C'est un spectre très large, c'est-à-dire être ni un homme ni une femme, ça peut être aucun des deux, ça peut être un peu les deux, ça peut être des fois l'un, des fois l'autre, c'est très large. Dire non-binaire, ça veut pas dire grand-chose en fait, ça veut juste dire qu'on est ni homme ni femme.
Si vous êtes attentif, vous remarquerez que Charlie a directement donné ses pronoms après avoir donné son prénom. Ça peut vous paraître étrange, mais dans beaucoup de nouvelles rencontres entre jeunes, on demande les pronoms d'une personne pour être sûr de ne pas la mégenrer. C'est-à-dire de ne pas utiliser les mauvais pronoms pour ne pas se tromper quand on genre une personne. Aujourd'hui, demander les pronoms d'une personne se cantonne à une génération mais aussi à un certain milieu, dans les grands lycées, dans les grandes villes et dans les luttes de jeunes, notamment les luttes écolo. Par exemple, dans le mouvement Youth for Climate, de la jeunesse pour le climat. À chaque réunion où il y a de nouvelles personnes, un tour de prénoms et de pronoms est fait. Cela sert ainsi à ce que les jeunes présents se sentent compris et inclus, là où la société les rejette et les mégenre. C'est donc ainsi qu'on commence à comprendre la convergence des luttes. Renverser le rapport de force et d'oppression est important dans toutes les luttes, que ce soit écolo, féministe, mais aussi dans la lutte LGBT. Mais c'est peut-être encore un peu abstrait. On va donc écouter nos invités afin de comprendre comment est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dans la norme hétéro, cisgenre de la société.
Les premiers signes, on va dire, qui étaient vraiment des signes d'enfant, quoi. Et j'aime bien cette anecdote, je la raconte pas mal. C'est j'étais avec un pote à moi qui est toujours un pote à moi. On était en primaire, en CP ou en CE1, je pense. Et on avait un jeu. On devait attraper des monstres et tout. Genre, c'était méga stylé. On était vraiment des super-héros et tout. C'était vraiment... une partie intégrante de mon enfance que j'aime énormément, qui m'apporte beaucoup de bonheur. Bref. Et quand les enfants jouent, ils prennent des espèces de personnages, tu vois. Et lui, il avait pris je sais plus quel personnage. Et moi, j'avais fait « Ouais, mais j'ai pas envie de jouer une fille. » Il m'avait dit « Bah, c'est pas grave, tu peux jouer un garçon. » Et moi, je dis « Mais j'ai pas envie de jouer un garçon non plus. » Mais il fait « Bah, viens, on dit que t'es aucun des deux et tout, un truc un peu stylé, nani. Du coup, les gens, ils peuvent pas savoir et tout. » Moi, j'étais là, wow. Tu vois, j'étais là, putain, c'est trop bien et tout. Genre, moi, je découvrais un peu un nouveau truc lié au jeu, en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais pas envie que la récré s'arrête parce que c'était là où j'étais le mieux. Et donc, ça, c'était vraiment, c'est le premier souvenir que j'ai, mais qui, enfin. Mais qui n'a rien engagé derrière. Le premier truc qui a vraiment engagé quelque chose, ou, enfin une réflexion en tout cas, c'est, c'était en janvier 2020, je crois. C'est le janvier... oui, c'était en janvier 2020. Et en fait, depuis que je suis en quatrième, voire en cinquième, sachant que je suis en première là du coup, je me suis intéressée énormément à la communauté LGBT. Et particulièrement à la transidentité. Et à un moment, je me suis quand même posée et je me suis dit, c'est un peu chelou là quand même. Genre, c'est un peu chelou de comme ça être autant à fond dans une cause qui ne te concerne pas. J'étais là, t'es sûre, ça te concerne pas un peu et tout, machin. Je me suis dit, ouais, en fait, si, je pense, je suis non-binaire et tout.
Donc j'ai fait mon coming out encore assez récemment en tant que garçon transgenre, c'est-à-dire que j'ai été assignée fille à la naissance. Mais très vite, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas et que je me sentais pas bien avec moi-même. Et je me suis rendu compte vers début 2020, fin 2019, que il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Et j'ai pu mettre les premiers mots, bref, vers cette période, c'est-à-dire transgenre. Je vais vous expliquer ce que c'est. Hein. Et j'ai commencé du coup à faire ma transition sociale, c'est-à-dire de dire à mes amis, puis à mes parents, enfin d'abord les personnes les plus proches, est-ce que vous pourrez me genrer au masculin, est-ce que vous pouvez m'appeler Samuel s'il vous plaît, tout ça. Donc la transidentité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pas se reconnaître dans le genre qui a été assigné à sa naissance, c'est-à-dire que on m'a toujours reconnue comme une fille, et puis non. C'est pas ce que je suis, c'est-à-dire qu'il faut différencier le sexe biologique du genre, de l'identité de genre qui découle d'une construction sociale, c'est-à-dire que ça vient juste de son cerveau, pas de son corps, c'est quelque chose qu'on construit soi-même au cours de sa vie et pas qui nous est forcément donné à la naissance, même si pour la plupart des personnes, ça correspond avec le sexe attribué à la naissance. Du coup, la majorité des personnes qui se reconnaissent dans leur... genre attribué à la naissance, c'est ce qui s'appelle les personnes cisgenres, la majorité de la population. Mais depuis quelques années, il y a de plus en plus de personnes transgenres, il y a de plus en plus de personnes qui se lèvent pour dire « c'est bon, je m'assume comme je suis, j'ai décidé de me dire « c'est bon, je vais passer mon temps sur cette planète le plus confortablement possible » et du coup voilà, je suis trans et fière de l'être.
Mais cette prise de conscience qui a permis de mettre des mots sur un mal-être s'accompagne souvent de complications. En effet, il faut, après avoir pris conscience de qui l'on est, le faire savoir à ses proches. C'est ce qu'on appelle un coming out. Et à ce moment-là, c'est un peu la loterie. Avoir de la chance ou non d'être bien entouré. Dans tous les cas, c'est quasiment toujours un moment terrifiant pour les personnes qui font leur coming out.
Et je me suis rendu compte de ça, du coup, la première personne à qui je l'ai dit, c'était ma sœur. Elle a rigolé, elle a fait « oui, genre c'est nouveau quoi ». Et j'étais là « ah d'accord, donc t'es pas du tout surprise en fait ». Elle était là « bah non ». Et moi j'étais là « ah bon, bah ok ». Et après je l'ai dit à ma mère. Ma mère c'était un peu plus compliqué, mais ce que je comprends parfaitement, c'est-à-dire que c'est toujours une étape en tant que parent d'entendre son enfant dire « en fait je ne suis pas la personne que tu as cru élever pendant tout ce temps-là, je suis quelqu'un d'autre, j'ai un autre prénom, j'ai un autre pronom, j'ai une autre histoire que celle que tu croyais jusque-là », ça fait toujours... je m'imagine, ça doit être compliqué. Donc je lui en veux pas du tout parce que elle s'est rattrapée derrière en fait. C'est-à-dire que oui, c'était compliqué au début, mais bon, maintenant elle m'appelle Charlie. Le prénom c'était vraiment un gros truc pour moi parce que on le dit tout le temps en fait. Donc et puis ça, dans ma tête, ça me permettait vraiment de dire que j'étais définitivement cette personne-là. Et donc du coup, c'est passé hyper bien. Mon père, c'est très très mal passé. Et au point qu'aujourd'hui, je ne lui parle plus.
On comprend donc qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas facile d'être LGBT. Néanmoins, il y a eu des avancées indéniables. Dans les années 80, on mourait de l'inaction de l'État face au sida. Et avant, on allait en prison, voire pire. Malheureusement, ce n'est pas pour autant que la vie est un long fleuve tranquille pour la communauté LGBT. Aujourd'hui, même en France, il y a de la transphobie, de l'homophobie et de la lesbophobie.
Être LGBT maintenant, c'est... faut pas perdre de vue que c'est difficile. Vraiment. Parce que on a encore peur de faire notre coming out, parce qu'il y a toujours des darons qui foutent leurs enfants à la rue, parce qu'il y a toujours des suicides par centaines. Enfin, on peut pas continuer à se permettre ça, en fait. Et même si ça a changé, évidemment, c'est indéniable, bien sûr que ça a changé. Enfin, je veux dire, il y a des amis de ma mère et de sa copine, parce que du coup, ma mère est avec une femme. Il y a des amis à elle qui sont plus âgées, qui ont une soixantaine d'années, et qui ont vécu des trucs, elle en tant que lesbienne, très très graves. Enfin, et évidemment, aujourd'hui, ça ne se passerait plus. On ne pourrait plus interner quelqu'un en hôpital psychiatrique pour homosexualité aujourd'hui. S'il y a un parent qui vient voir un hôpital psychiatrique en disant « voilà, j'aimerais interner mon enfant parce que ma fille est lesbienne », enfin, c'est le parent qu'on met dans l'hôpital, en fait. Donc évidemment que ça pourrait plus se passer aujourd'hui. Mais il y a des choses qui se passent qui sont pas moins graves, qui sont pas plus graves, qui sont juste différentes et qui sont plus insidieuses. C'est plus autant évident qu'avant. Et donc, des remarques qui, notamment aujourd'hui, je trouve, sous couvert d'humour, sous couvert de « on ne peut plus rien dire », en fait, on dit des trucs qui sont trop graves. Donc, la transphobie et l'homophobie passent par des trucs plus insidieux, genre des regards hyper mal placés. Genre, enfin, quand j'étais avec une de mes ex, on était dans la rue, on se tenait la main et tout, et il y a un mec qui nous crache dessus en disant sale lesbienne.
Et nous pouvons nous-mêmes parfois avoir des comportements, des questions, des remarques déplacées sans le vouloir. Voici donc quelques petites choses à éviter.
Juste pour des petites précisions de lexique pour avoir justement utilisé des mots plus adaptés et qui ne sont pas dérangeants pour les personnes concernées. Donc d'abord à ne pas utiliser la base de tout, et on l'entend encore aujourd'hui par erreur, c'est les transsexuels, puisque à l'origine c'était un mot qui était employé pour désigner une maladie mentale. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Voilà, le mot approprié, c'est transgenre, les transidentités.
Il y a aussi quelques questions à éviter qui sont posées beaucoup trop souvent aux personnes transgenres.
C'est souvent « qu'est-ce que t'as dans ton pantalon ?»« C'était quoi ton ancien prénom ?»« C'est quand est-ce que t'as fait ta transition ?»« Est-ce que t'as fini ta transition ou ta transformation ?» C'est encore pire. C'est juste, en fait, toutes les questions qui relèvent vraiment de l'intime, c'est bien d'y répondre au début parce que tu te dis vas-y, c'est bien d'éduquer la personne, sauf que c'est vrai que on l'entend vite souvent, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que tu veux aller dans ta transformation, est-ce que tu comptes prendre des traitements, est-ce que tu veux faire l'opération, c'est l'opération, ouais, enfin c'est disons que c'est quelque chose qui relève de l'intime et qui sous-entend que il y a une manière de faire sa transition qui va d'un point A à un point B. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. Il y a autant de transitions qu'il y a de personnes. C'est quelque chose que pas tout le monde a envie de partager. Voilà. Si j'ai envie de faire une opération ou pas, ça me regarde. Enfin, voilà, il y a ça. Une autre question qu'on peut poser quand on apprend que les personnes sont trans et qui est complètement inappropriée, qui relève vraiment de l'intime et enfin, qui peut vraiment beaucoup gêner, c'est « Ah oui, tu es trans, et du coup, comment ça se passe au lit? Comment ça se passe sexuellement ?» Bah, vous rendez bien compte que ce genre de question, tu la poseras jamais à une personne cisgenre. Enfin, c'est... Ça relève de la vie sexuelle d'un individu. Si tu ne connais pas la personne, et si la personne ne t'en parle pas d'elle-même, ne va pas lui poser ce genre de questions. Enfin, c'est complètement inapproprié. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui posent ces questions qui juste... Ben non. non, il faut arrêter. Voilà.
Un autre problème que rencontrent notamment les femmes lesbiennes, c'est la fétichisation. C'est-à-dire que sur beaucoup de sites pornographiques, on retrouve des catégories lesbiennes créées par et pour des hommes. Ce qui amène, en plus des agressions, des remarques, des phrases complètement déplacées. Comme par exemple...
Vous voulez pas un plan à trois, histoire d'avoir des vrais rapports sexuels, quoi.
C'est pourquoi Charlie dit...
Enfin, si tu sais taper Pornhub, tu sais aussi taper Wikipédia, donc... Enfin, dose. Tu vois ce que je veux dire? Genre, apprends un peu.
Mais malheureusement, la communauté LGBT n'est pas parfaite non plus. Et même au sein de cette dernière, il y a des clichés de genre. En effet, souvent, lorsqu'une personne appartient à une des catégories de cette communauté, elle se sent au début obligée de le cacher et va tout faire pour rentrer dans la norme imposée par la société. Puis, lorsqu'elle va faire son coming out, elle va alors tout faire pour vouloir montrer qu'elle appartient à cette case. Et ainsi, on bascule d'une case à une autre, d'une injonction à l'autre, pour essayer de prouver qui l'on est.
Il faut arrêter de se dire qu'il n'y a que des cases, en fait. À un moment, les cases, ça sert pour se dire « je suis comme ça ». Ça sert, quand t'es hétéro, de te dire bah, « je suis comme tout ce que je vois, je suis moi, ça me correspond ». Quand t'es lesbienne, ça te sert aussi de t'identifier à la case de la lesbienne, que soit créée par la société hétéronormée, même si en général elle est quand même pas hyper flatteuse, soit créée par tout le mouvement LGBT qui dit bon bah voilà, t'es lesbienne, tu te coupes les cheveux courts, tu te teins les cheveux. Ça aide de s'identifier, c'est sûr. C'est pour ça qu'à mon avis qu'on voit aussi beaucoup de mecs gays féminés et de meufs lesbiennes très masculines, parce que c'est vraiment l'image de l'homosexualité chez les hommes et les femmes. Et ça aide énormément de s'identifier pour se dire, voilà, je suis comme ça, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est mon identité, en fait. Ça aide énormément. Mais, d'un autre côté, ces cases, elles servent à s'approprier son identité, mais à un moment, il faut aussi savoir s'en détacher. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des cases. On peut être lesbienne sans avoir les cheveux courts, on peut être gay sans être efféminé, on peut être gay juste en étant soi-même. Comme on peut être hétéro en étant soi-même, on n'est pas obligé d'être un mec hétéro musclé, viril, on n'est pas obligé d'être une meuf hétéro avec des cheveux longs et porter des robes et des talons. Il y a 10 000 façons de l'être. Il faut arrêter de considérer le monde comme séparé en plusieurs cases auxquelles on doit forcément s'identifier de manière totalement, en fait, physiquement et mentalement.
Cette injonction à être pour les lesbiennes masculines et pour les gays efféminés s'explique notamment par le manque de représentation. Chez les personnes hétéros cisgenres, il y a des hommes efféminés et des femmes masculines. Mais ils ne sont pas érigés en modèles car ils ne sont pas considérés comme un porte-parole des hétéros. Il n'y a d'ailleurs pas de porte-parole. Alors que dès qu'un artiste LGBT va prendre la parole, il sera érigé en modèle pour la communauté. C'est par exemple le cas de Bilal Hassani, qui vit seulement sa vie comme il l'entend, et qui se retrouve critiqué par les homophobes parce qu'il est gay, mais également par les homosexuels, car il représenterait mal la communauté LGBT. Cependant, ce dernier ne s'est jamais érigé porte-parole du mouvement. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas parce qu'on est LGBT que l'on se doit d'éduquer les personnes autour. C'est un travail qui est très long, et le faire au quotidien avec des étrangers, ça peut être très très chronophage et être très important pour la charge mentale. Alors, essayons de garder en tête qu'il y a autant de gens qu'il y a de manières d'exprimer sa sexualité et que le genre est avant tout une construction sociale. En Inde, dans les sociétés anciennes, on parlait par exemple d'un troisième genre et certaines sociétés vont même jusqu'à 5 genres. On comprend donc que ce dernier est fluide, qu'il est sur un prisme et non binaire, ce n'est pas quelque chose qui est irréfutable. De même pour la sexualité, elle peut évoluer tout au long d'une vie. Il faut néanmoins se rappeler que la sexualité n'est pas un choix. On ne choisit pas qui l'on aime, on ne choisit pas de qui l'on tombe amoureux. Le seul choix qu'on fait, c'est de décider de vivre pleinement ou de vivre caché. De même pour le genre. Le seul choix que l'on fait est d'accepter le regard des autres ou de se faire mégenrer et d'être malheureux jusqu'à la fin de sa vie. On comprend donc qu'aujourd'hui, être hétéro et cisgenre signifie avoir des privilèges. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas concernées par la lutte. Tout d'abord car vos enfants, vos proches peuvent vous faire un coming out à tout moment. Et Samuel va vous expliquer comment y réagir.
Bah déjà, pour des parents, le plus simple, enfin la base, parce que ça peut paraître nié, mais ça fait plaisir à entendre, c'est de rassurer votre enfant dans le sens où bah, vous l'aimez et vous l'accompagnerez et vous serez là pour lui. Parce que des fois, c'est pas le cas de tous les parents. Et c'est important de le rappeler parce qu'on ne peut pas savoir. Puis aussi, ben, renseignez-vous, quoi. Il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources sur Internet. C'est très facile à trouver. Il y a beaucoup de témoignages. Et ça peut vraiment faire changer de point de vue sur la transidentité. C'est-à-dire que, ben, comme je l'ai dit, on a souvent, au premier abord, une représentation négative qui peut faire peur. Et c'est important de changer ça parce qu'il y a beaucoup de représentations positives, de témoignages positifs de personnes qui sont très heureuses dans leur vie grâce à la transidentité. Aussi de ben juste normaliser la transidentité parce que c'est encore démonisé par beaucoup de gens qui disent que c'est une abomination, que c'est pas normal, que c'est une déviance ou quoi que ce soit. Non, c'est juste être soi-même, c'est juste s'exprimer soi-même et être perçu comme on est soi-même. C'est pas un si gros problème, si vous voulez. À l'échelle d'un individu, c'est pas grand-chose à l'échelle d'une vie, la transidentité. Je pense que c'est important que les gens s'en souviennent, quoi. Laissez les gens vivre et accompagnez-les, si vous voulez, là-dedans, si vous êtes proche de la personne. Et si vous connaissez pas la personne, ben, juste laissez-la vivre comme elle l'entend. Parce que c'est son corps, c'est son choix, c'est sa personne. Et elle peut bien décider de vivre comme elle le veut, quoi.
Puis, vous pouvez être aussi un ou une bonne alliée, car la lutte a besoin des personnes cisgenres hétéro. Alors attention, hein, c'est pas une recette de cuisine, mais on va essayer de vous donner quelques pistes.
On a besoin des personnes hétéro, on a besoin des personnes cis, on a besoin de ces gens parce que aujourd'hui, comment dire, s'il y a juste un groupe de gens un peu chelou qui veut des droits, on va leur dire bah non, non, non. Et s'il y a des gens un peu normaux dans le genre de groupe chelou, on va faire ah, peut-être en fait. On va réfléchir. Donc du coup, évidemment, on a besoin des gens qui ne sont pas de la communauté, sinon ça ne marchera pas purement et simplement, ça ne fonctionnera pas. Donc pour être un bon allié, le premier point, le plus important, c'est l'écoute. Les personnes alliées, vous n'avez qu'un seul travail, c'est d'écouter les gens concernés. C'est juste ça qu'on vous demande. C'est d'écouter et de faire d'accord. Et de changer s'il y a besoin. C'est tout. On n'a pas besoin de votre avis. On n'a pas besoin de vos commentaires. On n'a besoin de rien. On a juste besoin de que vous écoutiez et que vous repreniez vos potes déplacés. Quand il y a un pote qui fait une remarque que tu sais qu'elle n'est pas bien, tu lui dis.
Et pour finir, j'aimerais vous redonner le sourire en vous faisant écouter pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont fiers de leur genre et de leur sexualité, même s'ils n'ont pas choisi cette dernière.
J'essaie de cultiver la fierté liée à ça, parce que les moments d'euphorie, l'euphorie de genre, du coup, c'est l'inverse de la dysphorie. C'est quand vraiment on se sent pleinement... moi, du coup, quand je me sens pleinement non-binaire et que je me sens bien, quoi. Quand je me regarde dans un miroir avec un vêtement, on voit pas trop ma poitrine, on voit pas trop mes jambes, tac... où je sens que je pourrais passer en tant que mec et aussi en tant que meuf, là, c'est de l'euphorie, par exemple. Et bon, bref, je me dis, les moments d'euphorie, je suis fière de ressentir ces moments. Ça veut dire que j'ai taffé assez fort pour pouvoir me permettre de ressentir ces moments. Enfin, je suis fière de l'avoir dit, en fait, aussi. Je suis fière d'avoir ce recul-là à mon âge, parce que j'ai 16 ans, et qu'il y a des gens qui ont 50 ans et qui pensent toujours qu'un homme est égal pénis et une femme est égal une vulve, et que la non-binarité n'existe pas, que l'homosexualité ne devrait pas exister.
Je suis lesbienne, j'ai pas choisi de l'être. Je l'ai découvert tardivement. J'ai pas prêté assez d'attention à ce que je ressentais pendant des années. Je m'en suis rendu compte à 16 ans, c'est plutôt tard d'après moi. Évidemment, il y a beaucoup plus tard, il y a toujours pire, mais j'ai pas la fierté d'avoir fait... de m'être assumée tôt, j'ai pas la fierté d'avoir affronté des difficultés, même dans mon coming out à mes parents. Mes parents ont été parfaitement tolérants, parfaitement bienveillants par rapport à ça, donc j'ai eu aucun problème. Donc, spontanément, j'aurais dit non, mais en même temps, j'ai tendance à me considérer fière de ça, pour lutter contre les gens qui nous prennent pas au sérieux, qui nient notre existence, en fait, souvent. C'est une sorte de barrière contre ces gens-là. Je me dis, je suis fière de l'être parce que je veux lutter contre les gens qui disent qu'on n'existe pas.
Je pense que je dirais que je suis fière aujourd'hui dans la mesure où il y a 6 mois, ça me faisait, ou même cet été encore, ça me faisait paniquer le fait d'être trans. Je me disais, putain, ma vie, ça va être de la merde. Avec mes parents, ça va être de la merde. Avec ma famille, ça va être de la merde. Dans les amours, ça va être de la merde. Vraiment... Au début, me dire je suis trans, je l'ai vraiment mal vécu, dans le sens où je me suis dit c'est juste des complications. Ça se trouve, tu t'es juste monté la tête tout seul, t'es complètement con, tu t'es monté la tête tout seul et maintenant regarde la situation dans laquelle t'es, tu te sens super mal avec ton corps et en plus tu vas devoir vivre avec, tu vois. Aussi, par exemple, le fait de me dire je vais passer par des chirurgies esthétiques, je vais passer par un traitement médical, par exemple, je détestais ça. Parce que ça revenait à me dire je suis née comme ça, je suis née comme j'étais, et j'ai pas réussi à m'accepter avec moi-même, j'ai pas réussi à m'accepter comme mes parents m'ont appelé. Du coup, je détestais ça. Je suis fière dans la mesure où aujourd'hui, je pense plus vraiment comme ça. Même si ça reste dur de se dire j'ai pas réussi à m'accepter. Aujourd'hui, ma transidentité, pour moi, c'est juste le moyen d'être heureux plus tard. C'est juste le moyen de me dire, un jour, je serai à l'aise avec mon corps. Et le moyen de me dire que la veille de ma mort, je me dirais, c'est bon, j'ai vécu comme je le voulais, je l'ai vécu comme je l'entendais. Et j'ai pas fait attention à ce que les autres ils pouvaient penser. Je me suis dit, vas-y, ça, tu le fais pour toi. C'est de là, pour moi, que vient ma fierté, dans le sens où je me suis dit, c'est bon, tu vas vivre pour toi-même et comme tu le veux.
Dans la rue, t'es tenue charmante, maquillée comme un fiancé. Garçon, fille, l'allure stupéfiante, habillée comme un fiancé. Cheveux longs, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est bel, il est beau décrier, outragé. J'en ai rien à faire. J'ai pas envie de la voir nue. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. On se prend la main,
On s'est aussi rendu compte que dans toutes nos émissions, nous arrivions souvent à la même conclusion. Toutes les problématiques qu'on soulève sont le résultat de dizaines d'années de règne du capitalisme. À cela, qu'une solution, la lutte. Et si on vous disait que la lutte commençait par une réflexion sur notre genre ? Et si une des manières de lutter résidait dans notre propre rapport à l'autre, dans nos manières de faire relation, dans nos manières d'aimer, en somme dans notre capacité à conscientiser et engendrer notre propre déconstruction ? Notre socialisation nous a toujours poussés à choisir une forme de binarité bien précise. Nous sommes voués à être soit un homme, soit une femme, puis nous sommes dans l'obligation de faire une relation. Nous devons fonctionner en duo, mais pas n'importe lequel. Un duo composé d'une personne de genre féminin et d'une personne de genre masculin. Bref, un duo hétérosexuel. Mieux encore qu'un duo, nous devons faire couple. En plus de devoir aimer le sexe soi-disant opposé, nous devons toujours, dans une exclusivité, avoir des projets de vie avec, mais aussi avoir des relations sexuelles, pour enfin mettre au monde le fruit de notre mélange si complémentaire. Et vers 30 ans de préférence. Ça, c'est le modèle vendu par la plus grande majorité des films, des livres, des musiques, des célébrités, des médias, mais aussi de la famille, de l'école, du travail, des amis, et en fait, ben, vendu par l'individu lui-même. Et c'est ça, la déconstruction du genre. C'est avoir conscience que ce qui devrait nous sembler naturel et inné n'est autre que construction sociale suivant un modèle hétéropatriarcal. Ce sujet doit être étudié de manière intersectionnelle. Comprendre comment tout cela a été construit demande une compréhension des formes de domination, des rapports de classe, de culture, de genre, de sexe, de génération. Prendre conscience des rouages de leur existence et réaliser qu'ils ont la même origine demeure alors une tâche épineuse, mais absolument nécessaire pour que les personnes et les combats minorisés dans l'espace public puissent un jour simplement ne plus l'être. Et si la solution était de faire taire un instant ce raffut incessant du discours tyrannique de la norme et donner toute notre attention à celui qui est laissé à la marge ? Et si c'était le temps du décentrement et de la déconstruction ? Dans l'ouvrage « Nos amours radicales », 8 personnes décrivent leur vision singulière et portent un regard nouveau sur l'amour. Parmi elles, une femme, Sharon Omonkoy. On vous laisse alors son témoignage et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. C'était La Gueule Ouverte, une émission d'Attaque Campus. Et aussi, je voulais rajouter, désolée pour ma voix, je crois qu'il y a un petit virus qui traîne en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il est important de critiquer l'hétérosexualité politique. Lorsqu'on est une femme qui a du désir, de l'attirance, physique, romantique ou sexuelle, pour les hommes cisgenres. Il en va de notre survie et de notre émancipation. Le désir ne suffit pas à rétablir la justice et à éliminer tous les systèmes d'oppression. Il est donc important de s'outiller et de s'organiser pour construire son autonomie. Les luttes féministes et les mouvements LGBTQIA+, m'ont aidé à conscientiser ma place dans la société et à lui donner de la valeur et une légitimité politique. Ces mouvements apportent depuis des années des réflexions sur cette question. Ils n'ont cessé de m'accompagner dans mes combats du quotidien pour déconstruire l'hétéropatriarcat et imaginer un nouveau système plus égalitaire, plus inclusif. Les lesbiennes, les bi, les femmes trans ont joué un rôle important dans ma vie professionnelle et militante. Leur lutte, leur soutien, leur combativité, leur amour sororal m'ont inspirée dans ma quête d'autonomie. Grâce à elles, je me suis autorisée à repenser ma féminité en dehors d'un regard masculin, à prendre le chemin de l'acceptation de ce que je suis et ainsi à placer mon bonheur au centre de mes préoccupations. Pour ma part, les femmes hétérosexuelles n'ont pas le luxe de désirer les hommes cisgenres en toute insouciance. En effet, tant que nous vivrons dans un système où nous sommes dominés, exploités, dévalorisés, assignés, violentés, enfermés, nous ne pourrons pas vivre nos amours dans la sérénité. Nous devons rester vigilantes et résister.